France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, la bande de Gaza, frappée de plein fouet depuis hier par une tempête alors que près d'un million de ses habitants vivent sous tente. Précision dans un instant de Thibault Lefebvre, notre correspondant au Proche-Orient. Une offensive massive de l'Ukraine la nuit dernière sur la Russie, des centaines de drones dont certains visaient Moscou. Une grève générale aujourd'hui au Portugal contre une profonde réforme du Code du travail. Nous en parlerons avec notre invité José Reis, professeur d'économie à l'Université de Coimbra. Dans l'actualité française, Brandt, fleuron industriel centenaire placé en liquidation judiciaire, 700 emplois perdus, un choc pour les salariés qui avaient pourtant travaillé à un projet de SCOP, société coopérative et participative. Précision d'Annabelle Grelier. Enfin, nous prendrons la mesure de l'incompréhension matinée de colère des éleveurs de bovins en proie à l'épidémie de dermatose et opposés à l'abattage du troupeau quand un seul cas est détecté. Hier, l'UNICEF alertait de la sorte. La malnutrition des femmes enceintes ou allaitantes à Gaza a des effets dévastateurs sur des milliers de nouveau-nés. Et voilà l'hiver d'accabler une population déjà à bout de souffle, selon les agences humanitaires onusiennes. Près d'un million de personnes ne vivent pas dans des conditions adaptées aux intempéries. 850 000 habitantes et habitants de la bande de Gaza survivent sous des tentes. La tempête Byron frappe en plus Gaza de plein fouet. Les pluies diluviennes vont continuer à tomber aujourd'hui et la nuit prochaine. Thibault Lefebvre.
Les zones les plus proches de la mer sont inondées. C'est là que se trouve la majorité des plus de 750 sites déplacés dans l'enclave. Les matelas sont trempés, les enfants frigorifiés. Le témoignage de Loaï Nasser, envoyé tôt ce matin de Deir el-Bala, c'est au centre de l'enclave.
All the areas close to the coastal road.
Toutes les zones côtières sont inondées, tous ces espaces sont saturés avec des tentes et de l'habitat précaire. Les gens sont en train de remballer ce qu'il reste de leurs tentes. Ils doivent une nouvelle fois se déplacer car beaucoup d'abris sont sous l'eau ou à terre.
Depuis le cessez-le-feu il y a 2 mois, la situation sanitaire reste compliquée. Jonathan Crix est porte-parole de l'UNICEF, il est actuellement à Gaza.
On a vu des enfants qui sont dans la rue avec pas du tout des vêtements qui les protègent contre les pluies importantes. Il faut apporter encore beaucoup plus pour assurer que des enfants ne vont pas souffrir du froid dans les semaines qui viennent dans la bande de Gaza.
Selon les Nations Unies, 850 000 Palestiniens de Gaza vont passer l'hiver sous des tentes. C'est la moitié de la population de l'enclave.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. Israël a rouvert hier le poste frontière d'Allenby, fermé depuis plus de 2 mois. Principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie pour le transit de l'aide humanitaire à destination de Gaza. Sur le plan diplomatique, cette déclaration hier d'un dirigeant du Hamas qui propose de geler l'armement du mouvement en échange d'une trêve durable à Gaza, tout en étant ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix à la frontière entre le territoire palestinien et Israël. Aucun bilan officiel, rien de surprenant, les autorités russes s'en gardent bien en pareilles circonstances. L'Ukraine a lancé hier une attaque de drones, l'une des plus importantes depuis le début de la guerre. Et là par contre, l'armée russe s'empresse de communiquer et pour cause. Elle prétend, cette armée russe, avoir intercepté des centaines de drones, certains d'entre eux visaient même Moscou. C'est une correspondance de Sylvain Tronchet.
C'est l'une des attaques les plus massives jamais lancées par l'Ukraine sur le territoire russe. Pas loin de 300 drones que le ministère de la Défense affirme, comme à chaque fois, avoir abattus. Il est difficile à cette heure d'évaluer les dégâts ou même de savoir s'il y a des victimes, mais d'après certaines images d'habitants qui circulent sur les réseaux sociaux, 2 usines de fertilisants ont été visées dans les régions de Smolensk et de Veliki Novgorod. Dans la région de Voronezh, le gouverneur dit que le réseau électrique et le système de chauffage a été endommagé par endroits. Dans celle de Toula, une école et une station-service ont été touchées dans la nuit. Une 40aine de ces drones ont été abattus dans la région de Moscou, où les 4 aéroports de la capitale ont dû être fermés cette nuit. Plus de 200 vols ont été annulés. Des centaines de passagers ont dormi à même le sol dans les aérogares. Des dizaines d'avions ont dû être détournés vers d'autres aéroports, comme celui du premier ministre arménien Nikol Pachinian. Après avoir fait des ronds au-dessus de Tver, à 100 km de Moscou pendant une heure, il a finalement atterri à Saint-Pétersbourg. Nicole Pachinian doit assister à Moscou aujourd'hui à une réunion de l'Union économique eurasiatique. Les aéroports moscovites ont rouvert en cette fin de matinée.
Sylvain Tronchet à Moscou, se relever cette fois que l'on doit à l'Agence internationale de l'énergie. Les revenus d'exportation de la Russie sont tombés en novembre à leur plus bas niveau depuis la pandémie de Covid en 2020. Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères accuse les États-Unis, je cite, d'un vol éhonté après que des forces américaines de l'armada déployées dans les Caraïbes ont saisi un navire pétrolier au large du Venezuela. Le Venezuela dont a pu s'extraire vraisemblablement avec l'aide de Washington, Maria Corina Machado, opposante à Nicolas Maduro, contrainte à la clandestinité et lauréate du prix Nobel de la paix, qui est réapparue hier à Moscou, où elle a eu ses premiers mots, Marina Corina Machado.
Je ne pense pas qu'ils aient su où j'étais, et ils auraient certainement tout fait pour m'empêcher de venir ici. Je voudrais remercier tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui. Un jour, je pourrai vous le dire, car je ne veux certainement pas les mettre en danger pour l'instant. Ça a été une expérience assez forte, mais je pense que ça vaut la peine d'être ici avec vous pour raconter au monde ce qui se passe au Venezuela, ce que ça signifie pour vous en tant que Norvégiens et Européens, ou pour tous ceux qui viennent d'ailleurs, pourquoi le Venezuela compte pour le monde. Je veux dire, quand on se bat pour la liberté, on se bat pour l'humanité.
L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.
Mathieu Laurent, il faut imaginer la moitié de la population active d'un pays qui débraille.
Et oui, et ce pays, c'est le Portugal qui affiche un taux de croissance de 2% et des finances dans le vert. Pays en grève générale ce jeudi. Salariés du public comme du privé sont en effet appelés à se mobiliser pour protester contre une profonde réforme du Code du travail. Un mouvement qui, par son ampleur, rivalise avec ceux qui, en 2013, avaient pour cible le Fonds monétaire international et l'Union européenne qui avaient mis le Portugal sous perfusion. Bonjour, José Reis.
Bonjour.
Bonjour monsieur, professeur d'économie à l'université de Coimbra et merci d'avoir accepté notre invitation. José Reis, que prévoit cette réforme et quels sont les arguments avancés par le gouvernement pour la défendre ?
Bon, la réforme est surtout basée sur une facilitation des licenciements, sur l'augmentation de la précarité dans le rapport salarial et surtout dans un sens de faire que les coûts avec le travail des entreprises soient les plus baisses possibles. Donc, c'est une croissante inégalité d'un rapport qui est déjà très déséquilibré.
Et il faut comprendre, à vous écouter, que ça concerne autant le public que le privé, d'où l'ampleur du mouvement de ce jour.
Oui, c'est ça. Les premières indications nous donnent l'idée que tous les secteurs de l'économie sont paralysés ou sont affectés par la grève. Il semble même que c'est un moment de courage assez important des travailleurs, du public, parce qu'il semble qu'ils sont stimulés par une réforme assez inégale qui va déséquilibrer encore plus les relations sociales.
Alors, on va y revenir, puisque vous venez d'ouvrir ce chapitre des relations sociales, mais ces derniers temps, ça arrive à tous les esprits de penser ça. Le Portugal est souvent cité en exemple de bonne santé économique pour ses 2 points de croissance, on l'a dit, et même l'excédent budgétaire qu'il a connu l'année dernière et qui devrait se confirmer cette année. José Reis, est-ce que ces indicateurs marquent une consolidation de l'économie portugaise au cours de ces dernières années ?
Il est vrai que après l'austérité, après le Covid, il y a, disons, une capacité de croissance de l'emploi, de croissance économique, de bonne santé, disons, des comptes publics. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un modèle économique basé sur une utilisation intensive du travail.
Vous voulez dire quoi, juste?
Ça veut dire que vous avez beaucoup d'emplois, mais vous avez des salaires assez faibles, des conditions assez précaires et des crises sociales qui ne cessent d'augmenter parce que, par exemple, l'accès à l'habitation ou l'accès à une carrière dans l'entreprise ou dans le secteur public est assez difficile. Donc on peut dire qu'il y a une fausse vitalité du modèle économique qui est basée sur, disons, des conditions sociales assez faibles. Le travail, en effet, paye ce modèle économique. Et comme nous pouvons imaginer, il y a une limite pour ça et les gens commencent à ne pas accepter des conditions comme celle-là.
Et vous parliez voilà, de relations sociales. On évoque souvent la crise de l'immobilier que connaissent certaines villes et ou encore l'exode des jeunes qui n'apparaissent pas, évidemment, des choses qui n'apparaissent pas dans les bilans, dans le tableau de bord économique du pays, du Portugal.
C'est ça, c'est ça. Regardez, il y a une autre donnée économique qui nous donne, j'imagine, une image un peu plus complexe. Du modèle économique. Deux tiers des emplois dans l'économie portugaise sont dans des secteurs d'activité où la productivité est inférieure à la moyenne nationale. Ça veut dire qu'on travaille dans des conditions qui ne vont pas créer la valeur, qui ne vont pas avoir capacité redistributive, donc n'ont pas capacité d'inclusion. C'est pour ça que soit l'émigration dont vous parlez, ça c'est vrai, il y a une émigration assez importante, qualifiée, des Portugais après 2013, mais aussi il y a des conditions sociales. Cette question-là de l'immobilier est très importante. Pourquoi ? Parce que, regardez, il y a
des derniers mots, oui.
Capitaux. De capitaux qui viennent acheter de l'immobilier dans les villes, mais la conséquence sont des prix des maisons assez élevés.
Hors de portée, eh oui.
Oh oui.
Bon, merci infiniment pour toutes ces précisions et ces explications, José Reis. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université de Coimbra et merci à Loïs Guérin pour la préparation. Ce n'est pas une grève générale, mais la contestation prend de l'embonpoint en Grèce. Les pêcheurs ont en effet rejoint hier les agriculteurs sur les piquets de grève pour exiger notamment le versement de subventions européennes retardées par un vaste scandale de fraude.
Le gouvernement fait état de sa profonde tristesse. Brandt a été placé en liquidation judiciaire.
Décision ce matin du tribunal des activités de Nanterre. Brandt, groupe centenaire d'électroménager, disparaît en laissant quelques 700 salariés au chômage. Et pourtant, un projet de SCOP, Société Coopérative et Participative, devait permettre de sauver au moins 370 emplois. Épilogue d'un sauvetage raté. Annabelle Grelier.
C'est une terrible nouvelle, un choc, un coup très dur porté à l'industrie française. Le président de la région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, a pris la décision du tribunal comme un coup de massue, d'autant plus incompréhensible, dit-il, qu'il avait réussi à mobiliser dans un temps record tous les pouvoirs publics pour monter ce qui apparaissait comme l'offre de la dernière chance pour sauver les deux dernières usines de Brandt. Une SCOP, à l'image du sauvetage réussi de Veralex. Porté par un entrepreneur local, le groupe Revive, le projet avait reçu un large soutien. Des soutiens qui tombaient comme en cascade depuis quelques semaines. Le gouvernement avait promis une aide de l'État à hauteur de 5 millions d'euros, suivie par les collectivités locales pour une somme atteignant au moins 20 millions d'euros. Mais il restait à convaincre les banques. Le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, les avait appelés à jouer le jeu. Leur soutien était en effet indispensable pour convaincre le tribunal de la viabilité de l'unique projet de reprise. De toute évidence, elles n'ont pas suivi. C'est du moins ce que l'on comprend président de la rédaction à Bercy, qui fait part ce matin de sa profonde tristesse de voir s'éteindre un fleuron français de l'industrie. Du côté des salariés, évidemment, cette décision est un véritable traumatisme. À quelques jours de Noël, ce sont 700 emplois qui disparaissent, dont 450 postes industriels dans les deux usines d'Orléans et de Vendôme, alors que le manque de trésorerie ne permet plus de verser les salaires après le 15 décembre. Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, doit se rendre dans la journée aux côtés des salariés du site près d'Orléans.
Annabelle Grelier.
Venons-en à l'incompréhension, voire la colère des éleveurs de bovins en proie à l'épidémie de dermatose.
Dermatose nodulaire contagieuse qui nécessite, selon les pouvoirs publics, d'abattre le troupeau quand un cas est détecté, ce que refusent quantité d'éleveurs qui ne se résolvent pas à perdre des années de travail, sans oublier les attaches qui se tissent au fil du temps. C'est le cas dans une ferme de l'Ariège où un nouveau foyer a été détecté mardi. Depuis, une mobilisation est en cours pour empêcher l'abattage. La Chambre d'agriculture du département et les syndicats ont proposé un protocole sanitaire alternatif. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Catherine, l'abattage initialement prévu ce matin n'a pour l'instant pas eu lieu.
Oui, car la mobilisation continue sur la ferme concernée. Plusieurs centaines d'agriculteurs venus pour certains des départements voisins bloquent les routes et les services vétérinaires chargés d'euthanasier les 207 bovins n'ont pour l'instant pas eu accès à la ferme. Mais l'abattage semble imminent. Instruction vient d'être donnée aux forces de l'ordre d'intervenir, indique le président de la Chambre d'agriculture présent sur place. Au cœur d'une mobilisation qui, il faut le noter, rassemble des agriculteurs de la coordination rurale comme de la Confédération paysanne, mais aussi des non-syndiqués. Localement, la profession dénonce une stratégie sanitaire inefficace et incompréhensible. Elle a proposé au ministère un protocole alternatif. L'idée étant que ne soient abattues que les vaches contaminées et que la santé du reste du troupeau soit contrôlée par test PCR pendant quelques semaines. Protocole auquel le ministère n'a pas donné suite, provoquant colère et incompréhension sur place. Écoutez l'éleveur Jérôme Bayle, présent sur la ferme en Ariège, connu pour avoir lancé les premiers barrages d'agriculteurs en 2024.
Ce matin, ils nous disaient qu'ils étudiaient le protocole. Et là, on se retrouve tout simplement avec des gens qui veulent même plus parler, qui décident, qui dictent leur idéologie. On a une ministre qui ne veut pas se rendre compte du territoire. Elle n'est jamais venue dans l'Ariège. Elle n'est jamais venue dans la Haute-Garonne. Comment elle peut prendre des décisions pour nos territoires? On ne l'acceptera plus. C'est le point de non-retour aujourd'hui entre la ministre de l'Agriculture et les agriculteurs français. On ne va pas partir de la ferme, mais un truc qui est sûr, c'est que 2024, c'était rien à côté de ce qui va arriver.
Il y a deux jours, le ministère avait réaffirmé son choix de poursuivre une stratégie sanitaire jugée efficace pour endiguer l'épidémie. Une chose est sûre, l'abattage de bêtes est très traumatisant pour les éleveurs, concernés comme pour les autres. À cela s'ajoute la situation économique très difficile dans la région. Cette nouvelle crise sanitaire a tout le potentiel pour se transformer en nouvelle mobilisation agricole.
Merci à vous, Catherine Pétillon.
Et au mémorial de la Shoah à Paris, une exposition ouvre aujourd'hui et elle nous renvoie à l'infime quantité d'informations à notre disposition sur l'extermination des Juifs d'Europe quand le film Shoah est projeté sur les écrans.
Elle rend accessible au grand public, autrement dit, des archives qu'on n'avait pas pu consulter ouvertement en France auparavant. Les enregistrements préparatoires du cinéaste Claude Lanzmann pour son film monumental sorti en avril 1985. Et alors que le film de 9h30 a tout juste 40 ans cette année, eh bien, Chloé Leprince revient sur l'état du savoir au moment où le public avait découvert Shoah.
Claude Lanzmann répétera beaucoup qu'il était très ignorant de la Shoah quand Yad Vashem lui avait commandé le film. Mais à ce moment-là, le grand public ignore encore à peu près tout des mécanismes de la Shoah, c'est-à-dire la politique de destruction des Juifs d'Europe. L'historien Tal Brutman.
Lanzmann va essayer de faire comprendre que les Juifs n'ont jamais été envoyés vers les camps de concentration dans le cadre de la solution finale, mais que les Juifs ont été envoyés vers d'autres lieux, ces lieux qu'il essaie de recréer avec son dispositif, qui sont des lieux où chaque personne qui arrive est immédiatement exécutée.
Écoutez d'ailleurs Claude Lanzmann au journal de 20h le 21 avril 1985, quand Antenne 2 annonce la sortie de Shoah.
C'est un film qui dure 9h30 et qui est une série, une suite de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale et plus précisément l'extermination du peuple juif dans les camps de concentration.
Dans les camps d'extermination.
C'est pas la même chose pour
vous ?
Pas
du tout.
Quand Lanzmann commence son projet, ça représentera 12 ans de travail, le savoir historien est réduit et jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, l'histoire de la Shoah est essentiellement produite par quelques pionniers marginalisés, très isolés, y compris vis-à-vis du giron académique.
Le meilleur exemple chez nous, c'est Serge Klarsfeld qui a fait tous ses travaux hors de tout milieu universitaire parce qu'il faut le dire, l'université n'est pas très intéressée par le sujet.
Lanzmann avait un rapport complexe aux chercheurs, proche de l'historien américain Raoul Hilberg, qu'on voit dans Shoah et qui est un peu son double. Il en invisibilisera d'autres. Tal Brutman.
Parmi ceux qui ont commencé à collecter et à identifier des gens qui sont dans le film de Lanzmann, il y a notamment Dita Sereni, qui va écrire un ouvrage qui est fondamental, qui s'appelle « Au fond des ténèbres » et qui est consacré à une série d'entretiens avec des anciens responsables de la solution finale, notamment à Treblinka. Claude Lanzmann s'est appuyé sur ces travaux-là. Et c'est ça qui constitue la trame de son film.
Le grand mérite de Shoah sera d'ouvrir le public à ce savoir, à ceci près que le film, qui dure plus de 9 heures, sera vu par un nombre limité de spectateurs.
Exposition Shoah de Claude Lanzmann, les enregistrements inédits au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 29 mars prochain. Quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer cette édition, tant bien gris sur la majeure partie du pays, et cela va durer surtout sur la moitié nord. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Sofiane Khatib.